Voilà, je profite des quelques instants consacrés au pré-générique pour faire un coucou à ceux qui se sont déjà connectés. Salut mon petit Benjamin, comment tu vas toi? Y a toujours un décalage entre le direct et la réception de l'autre côté de Facebook. Ça va impeccable, Benjamin, je te remercie. Je confine très très bien. Salut Mélanie. Clap clap à toi aussi. Benjamin, je te fais des très très gros bisous aussi. Vous me manquez tous. Autant on s'est engueulé des fois en visco, autant vous me manquez maintenant que vous n'êtes plus ici. Mais bon, vous êtes là par la pensée, c'est le principal. Dans 45 secondes, je lance le pré-générique. Bonjour, ou plutôt bonsoir, Marie-Madeleine. Oh, Marie-Madeleine qui est toujours fidèle au poste, qui est installée. C'est très gentil d'être venue encore ce soir. En plus, on va apprendre plein de choses ce soir. Bon, je dis rien, je veux pas commencer à prendre de l'avance sur la lecture. Dans 20 secondes, le générique commence. Vous avez plus que 15 secondes pour un dernier pipi. Allez, générique. Eh bien, nous y voilà, mercredi 6 mai 2020, 18h30. C'est l'heure du 12e Facebook Live Exilium. Merci d'être fidèle au rendez-vous. Merci d'accepter ce petit moment lecture qui va nous mener jusqu'à 19h. Une demi-heure durant laquelle je vais poursuivre la lecture du premier livre du roman Exilium, qui est paru en 2015, un roman fantastique qui, je le rappelle, se déroule dans le Berry, plus exactement dans le sud du département d'Ichère. Et pour ceux qui connaissent un peu le Berry, région qui a toujours cette étiquette de pays des sorciers, forcément, c'est un roman fantastique. Alors, aujourd'hui, tout simplement, dans la lecture, on va bien sûr poursuivre le chapitre 8. Nous avons lu la première partie aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la seconde partie. Demain, la troisième et dernière partie du chapitre 8. Aujourd'hui, encore beaucoup de réponses, donc ça va être très très dense. Beaucoup de discussions entre certains personnages. Beaucoup de mystères vont être dévoilés également. Donc, avant de passer à cette lecture, eh bien, comme tous les soirs, nous allons faire un résumé. Enfin, nous allons faire. Je vais vous présenter un résumé de la lecture d'hier soir pour que vous puissiez vous remettre dans le bain et ainsi entamer cette audition de façon tranquille. Allez, moi je mets mes lunettes et c'est parti. Résumé de la lecture précédente. Après une première partie de nuit cauchemardesque, durant laquelle Frédéric et les internes ont dû se barricader dans la salle informatique en attendant que la chose veuille bien disparaître par la fenêtre, la matinée du jeudi s'annonce plutôt calme. La neige commence à fondre d'ailleurs. Avant de repartir chez lui pour la journée, Frédéric retourne comme prévu voir le proviseur, avec qui la discussion prend une tournure particulièrement inattendue. Ce dernier lui apprend que la chose qui les panique depuis 2 jours n'est autre qu'un legati. Legati, c'est le nom donné aux individus qui ont la capacité de se transformer à volonté en une entité à la morphologie non humaine, mais inoffensive. Frédéric, désigné d'office pour devenir leur mentor, afin de les accompagner dans leur mouvement entre les deux mondes, prend tout cela pour une grosse farce, jusqu'à ce que le proviseur lui donne une carte de visite. Celle d'un abbé d'Allemagne qui l'attend ce week-end à l'abbaye de Noirlac pour l'éclairer sur l'univers des legati. De leur côté, Guilhem et Kevin, qui selon le proviseur sont au courant de l'existence des legati, attendent patiemment à l'extérieur, également prêts à fournir quelques explications bienvenues. Exilium, livre 1, chapitre 8, seconde partie. J'avais beaucoup de mal à intégrer les réponses du proviseur, qui étaient toutes dignes d'un mauvais film d'horreur de série B. Oh, j'ai eu même envie de rire, d'exploser tant je trouvais la situation grotesque au possible. Mais d'autres questions me brûlaient la langue. Et qui est au courant de l'existence de ces legati? Frédéric, quelle étrange question. Ceux qui s'intéressent aux mystères du monde, bien entendu. Les curieux de la vie, que sortir de leur zone de confort ne dérange pas. Par quel miracle pensez-vous que la société évolue? Les scientifiques étudient, observent, analysent, reproduisent, partagent, parce que la connaissance constitue la base de l'évolution de la société. Pourquoi donc les diableries du Berry ne font-elles plus peur? Parce que cette même science a fait reculer les superstitions qui ont fait le beurre des charlatans pendant des siècles. Aujourd'hui, les yeux rouges d'un chat n'effraient plus personne. La connaissance, Frédéric, la connaissance. Voilà la clé. Seuls les faibles et les imbéciles prennent leur bain dans le bourbier de l'ignorance. Sont éclairés ceux qui font l'effort de scruter au-delà de leur misérable existence, pour percer les mystères de la vie. Et ces individus ne sont pas légion, croyez-moi. Pardonnez-moi, monsieur le proviseur, mais je trouve votre discours plutôt dur, peut-être en partie vrai, mais en tout cas, j'ai l'impression qu'il est plutôt réducteur. J'admets que beaucoup de gens ne savent pas, mais pas forcément par sottise intentionnelle. Puis, en même temps, si Internet était un remède à l'ignorance, je crois que depuis le temps, ça se saurait. Mais tout ça ne répond pas à ma question. Au lycée, qui est au courant de l'existence de ces trucs, enfin pardon, de ces legati, à part vous bien entendu? Moi, ce que j'en sais, seulement l'assistance sociale, et les lycéens concernés, bien entendu. Mais toutes les connaissances du monde ne sont pas bonnes à être rendues publiques au même moment. L'assistance sociale? Ah bon sang, donc Mathilde est au courant de l'existence des legati, ainsi que des lycéens. Mais est-ce que je dois comprendre que certains lycéens sont eux-mêmes des legati? Frédéric, vous en croisez tous les jours en vie scolaire. Mais à vrai dire, je n'en connais que 3 actuellement scolarisés. Vous avez été choisi parce que vous avez été observé sur le terrain, justement, par ces quelques jeunes. Mais je comprends pas. Cette faculté de se muter, enfin, je sais pas trop quel terme utiliser, de se changer en autre chose, est-ce qu'elle touche les garçons et les filles à la fois? Non, uniquement les garçons. Pour autant que mes informations soient bonnes. Mais sans mauvais jeu de mots, je dirais que c'est pendant leur âge bête que cette aptitude se développe plus rapidement. Mais bon, le père abbé vous expliquera cela beaucoup mieux que moi. Et à Saint-Amand, les gens savent que des légatis se promènent comme ça dans la nature? Comment savoir qui sait quoi sur qui, que ce soit à Saint-Amand ou ailleurs d'ailleurs? Mais il ne fait pas toujours bon afficher publiquement une appartenance à une catégorie d'individus en particulier, surtout dans nos campagnes. La différence fait peur à ceux qui ne prennent pas le temps de regarder le monde au travers du filtre de la variété. Bien que naturel, leur don n'est pas courant, il faut l'admettre. Mais ce sont souvent les rapports intrigants de certains médias en mal de sensation qui permettent de localiser les élus imprudents. Ces créatures, ces personnes, sont extrêmement discrètes dans leur seconde nature. Et rares sont ceux qui ont eu le privilège de les voir en réunion sous la houlette de leur meneur. De les voir en réunion? Ils s'organisent en bande? Ils ont un meneur? Mais c'est quoi ce truc? Oui, le meneur, c'est ainsi qu'ils nomment ce qu'on appelle improprement en chef. Depuis tout à l'heure, les anciens les appelaient les meneurs de loups ou les meneux. À une époque où seule la peur rythmait la vie. Les meneux de loups, je suis certain que vous en avez peut-être entendu parler si vous avez lu George Sand. Ah, quel dommage que ces créatures exceptionnelles ne se laissent pas contrôler si facilement. Comment ça? Frédéric, vous ne mesurez pas encore leur puissance et tout ce qui découle de la capacité à pouvoir circuler librement entre deux mondes. Comprenez-vous ce que signifierait le contrôle de tels êtres capables de fusionner l'intelligence humaine avec la force de l'animal? Bah écoutez, non, je suis désolé, je ne cerne rien pour l'instant. Et puis autant vous dire que je découvre et j'assimile au compte-goutte pour l'instant. Et en même temps, ça me fascine, mais ça m'effraie aussi un petit peu. Et puis c'est quoi cette idée de vouloir contrôler les gens? Dans quel but? Le proviseur commença à tripoter sa barbe, comme une aide à la réflexion, avec une affection particulière pour son côté droit. Vous résumez très petitement, Frédéric. Vous ne voyez que le bout de votre nez, incapable de vous projeter au-delà de votre vie scolaire sans avenir. Vous manquez d'ambition, cher ami. Je connaissais le cynisme du proviseur, et je découvrais maintenant sa fatuité. Je tins malgré tout à entendre son argumentation jusqu'au bout. Monsieur le proviseur, je crains que chacun ait sa propre définition de l'ambition. Certains ambitionnent de grimper jusqu'au sommet des plus hautes montagnes, mais en fait, ils n'ont plus rien à offrir une fois descendus, hein. Tandis que d'autres, ils aspirent à l'humilité sur le plancher des vaches pour s'enrichir des autres. Chacun son kiff. Je baissai la tête, ne sachant plus dans quel sens diriger une discussion qui devenait difficile. Frédéric, je vous sens perplexe, mais bon, on reparlera de tout cela plus tard. Je pense que vous en savez bien assez pour aujourd'hui. Avez-vous à tout hasard quand même d'autres questions à me soumettre? Oh, j'ai probablement des caisses entières de questions, mais je ne sais pas vraiment par laquelle vider en premier. Ça se bouscule un peu dans la tête. Enfin non, je crois. Enfin, pour aujourd'hui, je pense que ça sera terminé. Je compte sur l'abbé surtout pour répondre aux questions qui me viendraient entre-temps. Ou sur l'assistance sociale aussi. J'espère la croiser bientôt. En tout cas, je vous remercie de m'avoir appris quelque chose de grandiose aujourd'hui. Avec ces étranges, ou plutôt ces extraordinaires légatis. Et je vous remercie aussi pour votre franchise, même si je dois vous avouer que je ne partage pas toutes vos idées. Mais bon, je ne suis qu'un simple assistant d'éducation. Mon ignorance doit venir de là. Bon, ceci dit, j'arrive à recoller les pièces du puzzle, mais je sens qu'il me faudrait un certain temps pour m'en accommoder. Oui, il faut du temps pour digérer ce genre d'informations. Ensuite, on s'adapte, tout comme on s'est fait à l'idée que la Terre n'est pas plate. C'est comme ça qu'on évolue la connaissance, cher ami. La connaissance. Non, je dirais plutôt le bon usage de la connaissance. Ah, je pense à une chose quand même avant de retourner chez moi. Dites-moi si je me trompe. Je me demande si le guide, enfin le meneur comme vous dites, je me demande si le meneur auquel je suis supposé succéder, ce ne serait peut-être pas vous. Sinon comment vous sauriez toutes ces choses à propos des légatis? Et je me demande également si ce n'est pas cette volonté de les contrôler qui vous a fait perdre votre place. Enfin bon, je vous dis ça, je lance ça, c'est une idée comme une autre. Hein. Le proviseur se leva, tourna un peu en rond à côté de son bureau, puis se rapprocha de moi. Que voulez-vous, Frédéric? On ne peut pas gagner à tous les coups. Mais je ne considérerai la partie comme terminée que lorsque j'aurai atteint mes objectifs. Peu importe le temps que ça prendra, dussé-je déguster la victoire sur mon lit de mort. Et je vous assure que ma réussite vaut bien plus cher que votre excès d'humanisme. Eh bien écoutez, excusez-moi, mais j'ai de mon côté la conviction que l'abus de pouvoir est en soi un aveu de faiblesse. Et pour rebondir sur votre logique, alors c'est peut-être finalement cette faiblesse qui vous a conduit à l'échec dans votre projet de contrôler l'incontrôlable. Un projet, vous l'aurez compris, que je ne partage pas vraiment. Parce que vous n'en saisissez pas tous les aspects. Vous ne réalisez pas encore la puissance qu'on est en train d'installer sous vos mains. Écoutez, monsieur le proviseur, avec tout le respect que j'ai pour vous et votre fonction, si ce que vous me dites sur ces négatives, et ça l'est, cette nuit vous n'avez vu que le reflet de l'ombre d'un échantillon. D'accord, très bien. Donc, puisque ce que vous me dites sur les négatives est vrai, alors ces personnes aux dons exceptionnels méritent d'être respectées, pas méprisées et encore moins contrôlées, non? Piqué au vif, le proviseur conclut sans transition le sujet de conversation, sur lequel je n'eus de toute façon aucune envie de m'étendre. N'oubliez pas de prendre votre fauteuil en partant, je vous rappelle qu'il est offert. Offert mais payé par le contribuable, ajoutai-je tout bas. Je me levai et posai ma tasse près de la cafetière. Le café était excellent, monsieur le proviseur, je vous remercie. Bon, en même temps, il faudrait être terriblement maladroit pour louper un café en capsule. Et pour les fauteuils, si vous permettez, je le prendrai un peu plus tard s'il ne vous embarrasse pas trop, car je n'ai pas prévu de m'arrêter à la vie scolaire ce matin. Je pourrais peut-être le prendre ce soir. À votre aise, je vous libère, vous en savez assez pour poursuivre votre quête de connaissances sur les légatis. De nouveau, je vous remercie, monsieur le proviseur, pour cet entretien. Ah, avant que vous ne preniez congé, permettez-moi, Frédéric, de vous renouveler mes remerciements sincères pour votre disponibilité professionnelle tout au long de cette semaine. Je suis conscient de ce que cela vous coûte, indépendamment du différend qui semble nous opposer sur le dossier Legati. Car apprenez que je ne mélange jamais les dossiers. Et vous pouvez laisser la porte ouverte en sortant. En sortant du bâtiment administratif, je vis Guilhem et Kevin attendre patiemment mon retour sous le préau. Je fixais ces cachotiers avec perplexité. Ils connaissaient à la fois la nature de ce qui nous avait visité cette nuit, son identité, ses motivations. Et pourtant, ils avaient opté pour le silence. Ils savaient ce qui se passait, mais avaient préféré laisser les internes et moi-même baigner dans un climat de peur plutôt que de nous rassurer. Mais pourquoi ? Je pressentais une soirée de questions particulièrement intense. Mais j'en étais pas encore là. Kevin et Guilhem n'étaient pas seuls à m'attendre. L'assistance sociale les avait rejoints. Quel surprenant hasard ! Je m'arrêtai un instant à me demander si j'aurais la force ce matin d'affronter tout ce petit monde en une seule fois. Autant cette intrigue à base d'individus au super-pouvoir me captivait, autant elle me déroutait. Dans l'impossibilité d'éviter les deux polices et l'assistante, je ne pus qu'aller à la rencontre. La petite allée sculptée dans la neige deux jours plus tôt affichait quelques points de bitume aux endroits les plus tassés. La douceur accélérait la fonte avec rapidité. En face de moi, les trois membres du comité d'accueil affichèrent un large sourire quand ils me virent les rejoindre. J'eus l'impression d'être accueilli par un mouvement ésotérique dont la naïve béatitude invitait à intégrer leur lumineuse communauté saturée d'amour cosmique. Mais j'adulais l'assistance sociale. Elle était géniale. Une femme d'une soixantaine d'années, dont la douceur naturelle n'avait d'égal que sa sagesse. Toute fluette, avec ses discrètes lunettes rondes et ses cheveux courts argentés, Mathilde véhiculait l'image d'une femme fragile. Mais entamer la conversation avec ce petit bout de bonne femme suffisait à pulvériser ce faux sentiment de vulnérabilité. Sa rigueur, sa générosité, son discernement, son bon sens, son ouverture d'esprit et son refus de juger les choses et les gens faisaient d'elle une interlocutrice idéale pour rechercher ses patries. Et ça tombait bien, car je tournais sur un fond de cuve. « Oh, bonjour mon cher Frédéric » engagea-t-elle avec cette voix fleurie dont je ne me lassais jamais. « Oh, Je remarque tes petits yeux, je perçois une grosse envie de rentrer à la maison. Ouais, salut Mathilde. Ouais, pas la forme olympique. Enfin, j'ai la santé, hein, je te rassure, mais le moral est sous le pâquerette. Enfin, c'est pas vraiment le moral, c'est surtout une sorte d'appréhension. Mais bon, je me doute que tu sais pourquoi, le proviseur a cafeté. Je doute que ta présence sous le préau à cette heure-là soit due au hasard. Sans me répondre, elle se tourna vers les deux garçons, effacés derrière l'autorité naturelle de Mathilde. Guilhem, Kevin, vous me laissez avec Frédéric? Vous le reverrez ce soir, vous aurez tout loisir de papoter avec lui, et vous en aurez des choses à raconter. Avant de nous abandonner, Guilhem tint à me rassurer. « Salut Fred, mais on t'aime bien, tu sais. Je t'ai dit mardi dernier que tout se passera bien, parce que tout se passera bien, c'est ma mission. Je suis toujours ton gardien, même si je sais que ça te semble toujours bizarre. » Ouais, c'est ça. Je te rassure, cette nuit on a juste frôlé la crise cardiaque, hein, sinon tout s'est bien passé, Guilhem. Puis Kevin voulut aussi placer son mot. Oh, on est content que tu sois maintenant avec nous. Ça va nous changer de l'ordre de l'autre tordu. Oh, mais la ferme, Kevin, t'en as assez fait comme ça. Arrête d'embêter Fred. Bon, les garçons, je vous ai demandé de filer. Alors vous filez, s'il vous plaît, maintenant. Hop, hop, hop. Je dois discuter avec Frédéric. Les deux polistes prirent leur distance. Mais ils ne disparurent pas puisqu'ils stagnèrent de nouveau sous le préau. Mathilde, Guilhem vient de me dire trois choses. Que tout se passera bien, qu'il est mon gardien et qu'il est investi d'une mission. Après ma discussion avec le proviseur, je commence à comprendre que tout cela n'a rien d'un jeu où il y a une réalité que je commence à peine de découvrir. Est-ce que je me trompe ? Mathilde mit sa main gauche sur mon épaule, puis me parla comme une maman qui consolait son enfant égratigné par sa première chute en vélo. Je vais te faire une confidence, Frédéric. Quand j'ai appris que les Legati t'avaient choisi comme nouveau meneur, je n'ai jamais douté que tu parviendrais à t'approprier rapidement l'information. A priori, très étrange, j'en conviens. Mais parce que c'est nouveau pour toi, tout simplement. Après, il faut un petit temps d'adaptation. Le temps de détricoter ton ancienne vision du monde. Mais viens, on va en parler au champ viscolaire, si tu as les clés. Ouais, ouais, c'est bon, j'ai les clés. Je sortis mon trousseau d'une des poches de mon épée parka. Aussitôt entré, le temps d'éclairer la vie scolaire et d'attraper un fauteuil, je m'effondrai sur le bureau avec une profonde envie de dormir pour oublier, épuisé par un mental trop sollicité. Professionnel jusqu'au bout des ongles, Mathilde savait gérer les situations les plus pointues, même si les circonstances étaient ici particulièrement singulières. Mais, plus important, ma confiance en elle était sans faille. Mathilde me donna une nouvelle tape amicale sur les épaules alors que j'évacuais ma tension dans quelques feuilles d'une bomine d'essuie-tout que j'avais eu la bonne idée de réclamer aux agents de service la semaine précédente. Puis elle empoigna un vieux fauteuil de la vie scolaire, ils étaient de toute façon tous vieux, sur laquelle elle s'installa au mieux après avoir revissé le dossier. Frédéric, je suis désolé. Tu n'aurais jamais dû apprendre l'existence des Legati de cette façon, sans personne pour t'expliquer quoi que ce soit. Les garçons m'ont tout raconté ce matin. Guilhem et Kevin m'ont assuré que tu avais pourtant géré tout ça d'une main de maître. Et ils ne savent pas mentir sur ce genre de sujet, crois-moi bien. Mais ils t'en reparleront ce soir. En attendant, je vais un petit peu éclaircir ta lanterne. Oui, vas-y, éclaircis-moi ma lanterne, parce que là, ça devient sérieusement urgent, Mathilde. Bon, Frédéric, je vais d'abord te raconter une histoire. Mon histoire, et c'est une jolie histoire. Et peu nombreux sont ceux qui ont le privilège de l'entendre, crois-moi. Mathilde jeta un œil au plafond, comme pour remettre de l'ordre dans ses souvenirs. Je finis de me moucher et relever la tête pour lui accorder toute mon attention. J'ai commencé mon métier jeune, il y a 35 ans, mais pas dans cet établissement. J'ai très tôt été confronté à l'existence des Legati, mais de façon plutôt inattendue. J'avais fait connaissance avec un jeune en dernière année de BTS, Nicolas il s'appelait, je ne pourrais jamais l'oublier. Il était si introverti, je n'arrivais pas à déchiffrer son mal-être. Mais à part ça, il était en parfaite santé, et puis surtout, il était bon élève. Sa famille était adorable, et elle ne comprenait pas plus pourquoi Nicolas paraissait si triste en permanence. Mais bon, finalement, avec le temps, elle s'en était accommodée. Puis le jour de ses 18 ans, Nicolas a décidé, comme ça, d'un coup, que sa tristesse devait cesser. Il a débarqué dans mon bureau, puis il m'a dit « Voilà mon problème, mademoiselle !» En une fraction de seconde, tout le haut de sa tête s'est couvert d'espèces mèches hirsutes, comme s'il avait collé une perruque d'herbe sauvage. Mais ça jaillissait directement du cuir chevelu. Et tu sais comment j'ai réagi? Ah non? Ah, c'était un Legatti alors? Bah j'imagine qu'avec des cheveux comme ça, tu lui as donné l'adresse d'un bon coiffeur. Oh, ah Frédéric, arrête un peu, allez! Oh, je suis sérieuse! Mais non, Mathilde, je sais pas. T'as eu peur? Tu t'es enfui? Eh bien non. Figure-toi que je me suis mise à rire, mais à rire! J'en avais les larmes aux yeux. Ça me rappelait mes petites poupées sur lesquelles on faisait pousser des cheveux en pâte à modeler. Le gamin ne comprenait pas ce qu'il y avait de drôle dans son supposé problème. Il me regardait comme si j'étais folle. Je voyais bien que faire pousser des touffes de cheveux de cette façon n'avait rien de coutumier, mais ma réaction nerveuse a sauvé ma vie professionnelle, et peut-être même ma vie tout court. Quand le jeune homme a vu que je m'enfuyais pas, il s'est rapproché de moi et m'a dit « Vous savez, mademoiselle, je peux faire la même chose avec tout le corps, mais je ne voulais pas vous faire peur. » Et devine ce que je lui ai répondu, Frédéric. « J'en sais rien, vas-y, dis-moi, tu lui as répondu quoi ?» J'ai dit à Nicolas « Tu as un don fabuleux et pas courant, ce qui fait de toi quelqu'un de magnifique. Et je suis fier de croiser des élèves qui acceptent de partager avec moi des choses que je ne vois pas tous les jours. Je me sens vraiment privilégié, Nicolas. » Le gamin avait retrouvé le sourire et la joie de vivre. Du jour au lendemain, ses parents ne le reconnaissaient plus et cherchaient une explication à ce revirement de situation. Alors j'avais bien deviné qu'il n'était pas au courant de son don, et comme je n'avais aucun moyen d'anticiper leur réaction, après avoir un peu discuté avec eux, je ne suis pas entré dans les détails. Hein. Seul Nicolas détenait le droit de s'en charger, de tout leur raconter, s'il le souhaitait. Mais après, il s'est passé quoi ? Une fois qu'il n'a plus considéré son don comme un problème, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, Nicolas a rapidement appris à contrôler ce qu'il considérait comme un talent, puisqu'il s'était empêché, il était comme refoulé jusqu'à maintenant. Enfin, c'est pas vraiment un talent, j'appellerais pas ça un talent, parce qu'il n'a rien fait pour le développer. Enfin, je dirais plutôt que c'est une aptitude, voilà, c'est une aptitude, le terme convient mieux, parce qu'il est né avec ça. Et il savait même comment repérer les autres Legatti. Il les sniffait, comme il disait. Et j'ai ensuite reçu des Legatti tout au long de l'année dans mon bureau. Oh, pour de multiples raisons d'ailleurs, sans forcément un lien avec leur faculté, mais comme il se passait le mot, chacun était fier de me montrer à quoi ressemblait leur seconde peau. Certains d'ailleurs ne venaient me voir que pour ça. C'était devenu un jeu pour eux. Enfin, parfois gênant, je dois le reconnaître. J'étais jeune, ils étaient dans la pleine force de l'âge, et ils ôtaient leurs vêtements du haut pour ne pas les déchirer durant la transition, comme ils appellent leur phase de transformation. Ah, d'accord, c'est donc ça, cette transition dont me parlait Lewis. Mais alors c'est que lui aussi, c'est un Legatti. Eh oui, Frédéric, c'est un Legatti. Tu sais, plus d'une fois, j'ai eu peur qu'un élève indiscret découvre ce qui se passe dans mon bureau. Et j'aurais eu grand-peine à expliquer la présence de garçons à moitié déshabillés dans mon bureau. Je risquais mon poste à l'époque. Enfin, je risquerais toujours aujourd'hui si je faisais la même chose. Mais tu auras l'occasion de vérifier par toi-même. Une fois changés, ils ont tous une particularité qui les rend différents l'un de l'autre. Et t'as jamais eu peur de te retrouver comme ça tout seul face à des sortes de créatures, enfin? Oh, tu sais, Frédéric, j'ai découvert les Legatti dans le cadre de mon travail. Et je vois de tout tous les jours. C'est ça, je crois, qui m'a aidé à l'accepter sans juger. Nicolette est un garçon formidable. Il venait de temps à autre me raconter ses petits soucis. Puis il en profitait pour se livrer à quelques transitions. Comme il contrôlait parfaitement le mécanisme, il m'a fait découvrir en douceur sa seconde nature. Oh, puis il en était fier, hein. Après, c'est la transition du visage qui m'a quand même un petit peu effrayé. Il faut prendre une bonne respiration avant, mais quand tu sais qu'ils sont inoffensifs, tout se passe bien. J'ai donc appris à connaître le second Nicolas, en quelque sorte, morceau par morceau. Il aura fallu attendre quand même 2 mois pour qu'il décide de se métamorphoser en intégralité, des pieds à la tête. Mais ce jour-là, il m'a d'abord demandé si je me sentais prête. et je l'étais. Il s'est déshabillé devant moi. Il me regarda un instant, puis s'est lancé dans une lente transition. Il aurait pu s'en charger en quelques secondes, mais non. Il tenait à prolonger cet instant précieux et me montrer comment ça fonctionnait. Oh la vache, j'hallucine. Mais donc, rassure-moi, t'as quand même eu peur cette fois, non? Oh, tu sais, je dois t'avouer qu'à force de partager les petits secrets de Nicolas, j'étais jeune et j'avais développé quelques sentiments pour lui. Et je crois qu'ils étaient réciproques d'ailleurs. Mais bon, on n'en a jamais parlé. J'étais assistant social. Il était l'élève. Et nous avons gardé nos rôles. Cette frontière me faisait mal parfois, mais je m'y tenais. Une fois la transition de Nicolas terminée, c'était une véritable créature de cauchemar qui s'étonnait devant moi. Et pourtant, je ne voyais que mon petit Nicolas. C'est difficile à décrire, ça ne ressemble à rien de connu. On dirait un assemblage de morceaux de monstres. C'est hallucinant. Et normalement, la peur que j'aurais éprouvée si j'avais croisé cette bestiole dans la forêt, bien cette peur avait été complètement chassée en raison de toute l'affection que j'éprouvais pour ce jeune homme hors du commun. Je voyais plutôt en lui un roi dans toute sa majesté. Je me suis alors approché de lui pour lui donner un petit bisou sur son long et gros museau, tout en chatouillant prudemment sa fourrure. Quelques secondes d'une magie inouïe. Bon, je reconnais que c'était un peu inconscient de ma part, mais j'aurais dû peut-être voir plus de dangers. Mais il n'y en avait pas et je ne regrette rien. Tu sais quoi? C'était la première fois que j'embrassais un client. Mathilde marqua une pause, ferma les yeux et laissa ruisseler une larme. Oh Mathilde, j'ai une bobine d'essuie-tout si tu veux. Ce fut la seule et unique fois où je vis l'assistante sociale s'émouvoir ainsi. J'enviais le contexte si particulier dans lequel s'était déroulée la première rencontre avec un légati, une expérience si différente de la mienne. Eh bien ma chère Mathilde, quelle histoire! Mais dis après, qu'est-ce qui s'est passé? Me laisse pas sur ma faim. Moi, je veux tout savoir. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé avec Nicolas après? Mathilde rouvrit les yeux sans prendre la peine de sécher sa perle luisante, puis claqua ses deux mains sur les cuisses comme pour se donner du courage. Allez, Frédéric, j'ai découvert ce jour-là ce qui allait influer sur la qualité de mes relations avec les gens. Je me suis promis de ne jamais permettre à la peur et aux conventions de diriger mes émotions ou de prendre des décisions à ma place. J'ai compris que l'amour était l'unique chose qui me permettrait d'avoir du succès avec les personnes en souffrance. Car c'est l'amour qui a chassé ma crainte, parce que seul l'amour peut bannir la crainte. Et ce parcours initiatique m'a aussi fait comprendre que finalement, il n'y a que deux sentiments qui dirigent nos vies, l'amour et la peur. C'est l'amour qui nous fait avancer, mais c'est la peur qui engendre la violence, la haine et le rejet. La peur par ignorance le plus souvent. Frédéric, écoute-moi bien. Ne sois jamais effrayé par ce qui t'a été caché jusqu'à ce jour. Oublie ton petit confort et apprends à aimer même ce qui doit bousculer tes conventions. C'est le seul moyen par lequel tu pourras comprendre et t'imprégner du monde des légati. Fin de la lecture pour aujourd'hui. Il est 19h03. Ça va, c'est pas méchant. Le replay, bien entendu, sera disponible comme d'habitude dans quelques minutes sur la page Facebook Exilium. Vous avez comme d'habitude la possibilité d'écouter tous les replays des jours précédents, donc il y en a maintenant 11, puisqu'aujourd'hui c'est le 12e. Et demain, donc, on terminera ce chapitre 8, la partie sera un petit peu plus longue qu'aujourd'hui, donc demain, si vous n'êtes pas trop pressé, je pense qu'on terminera vers 19h10. Voilà, je préfère vous avertir maintenant, quitte à terminer peut-être un petit peu plus tôt. Allez, maintenant, je passe à vos messages. Oh là là! Alors, tac, 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 tac. Alors, tout à l'heure, j'ai vu Benjamin, que j'ai salué, Marie-Madeleine, que j'ai salué. Valérie, qui me dit un gros bravo, Fred. Je te fais un gros bravo aussi, ma petite Valérie. Un gros bisou. Mélanie, qui me fait un super... Fabien Bellec, c'est mon frangin qui arrive à la fin. Bah oui, bienvenue Fabien, et puis au revoir. Benjamin qui me fera un clap-clap. Benjamin qui me fait... Oh là là, qui m'envoie un petit cœur. Oh là là, Benjamin, entre nous, ça devient sérieux, là. Oh là là, Benjamin, 10. Ouais, mais 10 sur combien? Si c'est sur 20. Et enfin, Valérie, encore un petit cœur, mais il faut que je baisse. Alors, attention, je baisse, voilà. Ah ben non, Valérie, voilà, gros cœur. Alors, j'ai plein de gros cœurs ce soir, ça me fait très plaisir. J'espère que la lecture de demain vous... Bah, en fait, elle est dans la même tonalité qu'aujourd'hui, la lecture de demain. Vous verrez, c'est tout aussi intéressant. Et en fait, jusqu'à la fin, les lectures seront très pertinentes. Enfin bon, voilà, c'est plutôt à vous de juger, plutôt qu'à moi de faire la publicité pour tout cela. Quoi qu'il en soit, merci d'être venu. Moi, ça m'encourage à poursuivre cette lecture. Et je vous dis à demain, 18h30, comme d'habitude. Et d'ici là, je vous souhaite une excellente soirée. On arrive bientôt à la fin du confinement. Pour ceux qui le vivent peut-être difficilement, alors prenez courage, c'est bientôt fini. Et apparemment, sur la base de ce que j'ai lu, ou plutôt de ce que j'ai écouté aux informations, eh ben, ça se présente plutôt bien. La pandémie semble se tasser bien mieux que ce qu'ils pensaient. Voilà, c'était le petit mot d'encouragement pour cette fin de soirée. Je vous embrasse tous et je vous dis à demain. Sans faute, hein, moi, je vous attends.